rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, le magazine de la bonne double soirée. Vous le savez, ça commence sur le net à 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Et puis ça recommence, mais à l'antenne, comme tout le monde, de 22h à minuit. Oui, il faut suivre, hein, Christophe Girard. Ce soir, une émission paranoïaque, tendance vodka et autres, alcool, avec Bernard Campan sur scène en caviste célibataire dans La Dégustation, une comédie romantique et arrosée, mais pas que, au programme Deuil Impossible, PMA, Liberté Conditionnelle et Vin de Messe. Bernard Campan, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Martine Danglejean et Christophe Girard, chargés de la culture à la mairie de Paris pour DAO, l'exposition expérience immersive qui affole les Parisiens, qui hystérise les médias. DAO 24h sur 24, c'est au Châtelet, au Théâtre de la Ville à Paris et au Centre Pompidou. Reconstitution d'appartements soviétiques, film à la violence insoutenable, rencontre avec des chamans, pas de billets mais un visa pour entrer dans un monde parallèle sous la surveillance du KGB. Martine Danglejean, Christophe Girard, bonsoir.
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 Jeudi, c'est le jour des nouveautés nouvelles pour Marion Guilbeault qui nous dit tout sur le meilleur des sorties à venir.
Un comeback, un crooner, une Amazon, et c'est à découvrir un peu avant 23h dans le NRV.
Et dans le NRV, la suite ce soir, on continue la paranoïa. Trump est-il un agent russe?
Voilà, c'est ça. Non, on est non seulement paranoïaque, mais complotiste.
Complotiste.
Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir une bonne audience? Écoutez, je fais de mon mieux pour vous aider, Laurent. Hein, vous pourriez me remercier. Donc pour sous-peser cette question importante, Trump serait-il par hasard un agent russe? Il y aura Alain Frachon du Monde, la politologue, géopolitologue Caroline Galacteros, Bernard Bajolet, ancien directeur de la DGSE, et Slobodan Despot, écrivain et éditeur.
Eh bien, c'est parfait. Le NRV, allez, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Double scène pour vous trois ce soir, mais dans des genres très différents. La Dégustation, une comédie romantique et sociale pour vous, Bernard Campan. Et puis DAO, une œuvre totale et totalitaire dont on va parler avec vous, Martine Danglejean et Christophe Girard. Vous avez déjà entendu parler de DAO, Bernard Campan? Vous voyez un peu ce que c'est ou pas?
Non.
Pas du tout?
Non, pas du tout.
Vous ne voyez pas les énormes affiches partout dans Paris?
Non.
Vous n'avez pas Internet sur lequel il y a des teasers qui viennent s'infiltrer dans vos conversations?
Non, désolé. Non, c'est vrai que je ne regarde pas trop Internet, affiches dans Paris.
On va vous dire ce qu'il en est. Martine Danglejean, vous êtes là depuis le début du projet. Il est signé par le réalisateur Ilya Kshanovski. Je vous laisse dire deux mots, parce qu'on va rentrer dans le détail tout à l'heure, pour présenter à Bernard Campan ce dont il s'agit.
Alors d'abord, Bernard, il faut venir. Il faut venir, il faut vous jeter dedans, il faut vous laisser porter par cette chose indescriptible qui est DAO, qui est au fond et à son début une œuvre de cinéma, mais qu'on découvre et qu'on consomme de façon complètement différente. C'est-à-dire qu'il faut y passer du temps, il faut...
Peut durer 24 heures.
Ça peut durer un mois, si vous voulez.
Oui, un mois, on a quand même...
Mais surtout, venez regarder les films et ensuite, des choses étranges et merveilleuses se passeront.
Combien de films?
13 longs métrages avec des séries aussi, plusieurs séries, dans 3 séries d'épisodes de 9 ou 10 épisodes chacune, et beaucoup d'autres choses dont il faut faire l'expérience absolument à Paris.
Avec pourquoi pas Marina Abramović sur scène, Romeo Castellucci, mais tout ça c'est dans les prévisions, je ne sais pas s'ils ont déjà commencé ou pas, Christophe Girard.
Eno, en tout cas moi j'ai entendu et vu Brian Eno pendant une nuit.
C'était au Châtelet, c'était au Théâtre de la Ville. Théâtre de la Ville.
Au Châtelet, c'est le week-end prochain que ça ouvre.
Comment on vous a présenté le projet, vous, Christophe Girard? Parce que c'est très complexe. Hein. Moi, j'avais assisté à un dîner où le projet était présenté. Au départ, ça devait être un film, un biopic sur un physicien russe. Puis ensuite, c'est devenu une œuvre totale, puisque l'on peut visiter des appartements reconstitués au Théâtre du Châtelet, au Théâtre de la Ville. Mmh. En effet, on peut aussi reconstituer un appartement reconstitué, c'est au Centre Pompidou. Il y a des gens que l'on rencontre, un sex shop qui a été recréé, ça c'est au Théâtre aussi du Châtelet. Comment vous, on vous a présenté le projet, vous qui êtes à la tête des affaires culturel de Paris, Christophe Girard?
Alors,
premier poste.
Voilà, quand Anne Hidalgo, fin septembre, m'a confié le portefeuille de la culture, il y avait un certain nombre de dossiers qui étaient dans les tuyaux, dont le fameux bouquet de tulipes Jeff Koons.
Ah, Jeff Koons en premier.
Et le dossier, voilà, que j'ai réglé. Et le dossier DAO.
Que vous avez réglé
mais
aussi.
Mais peut-être faut dire pour Bernard Campan ce que veut dire DAO.
Oui.
Parce que je pense que DAO, c'est pas le DAU, c'est pas... DAO, c'est le nom... raccourci de Lev Landau, qui est un prix Nobel de physique russe qui vivait à Kharkov en Ukraine. Voilà, et DAO, c'est le diminutif. Donc ça, c'est le nom. Ensuite, ce dossier était bloqué, tout simplement parce que Il y avait des difficultés d'organisation. L'idée d'origine, Martine est la productrice, donc elle parlerait mieux que moi, mais je connais bien le dossier maintenant, était d'avoir une passerelle
entre
qui permettait de relier le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Ville et de pouvoir passer des projections du Théâtre du Châtelet au Théâtre de la Ville et vice-versa. Nous sommes en période, comme vous savez, assez compliquée dans ce pays, avec des week-ends où il y a de nombreuses manifestations. Et les nombreux gilets jaunes qui viennent manifester chaque week-end auraient évidemment sans doute créé des difficultés autour de la passerelle. En tout cas, il y avait des risques de sécurité publique, donc le préfet s'y est opposé, mais pas pour des raisons de censure artistique, pour des raisons de sécurité, de fluidité de la circulation. Donc, il a fallu démonter ou rapprocher les points de vue, ce que j'ai fait, qui était déjà de rapprocher Ruth Mackenzie, la directrice du Châtelet, qui est à l'origine de l'invitation, elle comme directrice artistique du Châtelet, de cette équipe russe et de l'œuvre d'Ilia.
Combien il y a de Russes en ce moment à Paris pour le projet ?
À Paris, il y a à la fois les espions, les comédiens, les services secrets russes, le KGB, enfin il y a beaucoup de monde.
La nomenclatura.
La nomenclatura,
donc, voilà, il y a beaucoup de monde.
À peu près 200 à 300 personnes quand même pour le projet.
Et donc, Emmanuel de Marcimota, qui lui dirige le théâtre de la ville, n'avait pas été totalement, on va dire...
convaincu.
Complètement embarqué
convaincu.
Plutôt. Embarqué, enfin bon. En tout cas, ils se sont vus. En se voyant, le point de vue a été trouvé. Moi, je trouve que c'est mon rôle de mettre ensemble des acteurs d'un projet commun. Et puis ensuite, de convaincre les services de la ville, de la voirie, de l'urbanisme, la préfecture de police, de faire en sorte, c'est mon rôle de passeur, de maire adjoint à la culture, de faire que cette œuvre se tienne à Paris parce qu'elle est démente et que Berlin l'avait refusée.
Berlin l'avait refusée, peut-être Martine va vous donner la raison, parce qu'il était quand même question d'un truc absolument incroyable. Là, ce n'était pas l'idée de construire du jour au lendemain une passerelle, parce que le projet à Paris, c'était qu'un jour, on se lève dans Paris, il y a une passerelle comme ça qui a été construite entre le Théâtre de la Ville et le Théâtre du Châtelet. Mais à Berlin, c'était un autre projet beaucoup plus politique.
Alors à Berlin, enfin, quand Dao s'installe dans une ville, il s'installe différemment dans chaque ville. Il prend compte de l'histoire et de la culture de chaque ville. Et à Berlin, ce qui avait été conçu de façon absolument en lien avec le gouvernement, avec la mairie, etc., avec
c'est le mur. Ils voulaient rebâtir le mur.
Ils ont voulu rebâtir le mur. Donc, on a en fait créé le mur de Berlin, qui est en storage dans Berlin même. Et du jour au lendemain, il allait s'installer au centre de Berlin, un territoire entouré par un mur tout à fait comme le mur de Berlin. Et donc, il a été refusé à la dernière minute parce qu'il y a eu une polémique dans la presse.
Tu parles.
Disons, juste avant l'ouverture du projet. Et je crois qu'ils ont eu un petit peu froid aux yeux. Ils ont décidé de reporter, plutôt qu'autre chose, reporter le projet.
Voilà. Alors, les polémiques, il y en a aussi ici même à Paris. On y reviendra dans quelques instants avec vous deux. Ça vous tente, Bernard Campan, de prendre un visa pour soit 6 heures, soit 24 heures, soit
illimité. Donc pour un mois.
Une heure, bien sûr.
Pas obligé.
Une heure, ça compte.
Vous voulez que je sois franc?
Bien sûr.
Non, je suis un peu perdu, là. Donc, j'ai du mal à me figurer.
Exactement ce que ça peut être.
Me représenter de quoi il s'agit. Donc, je suis un peu, je flotte un peu, là. Je peux pas vous dire, si je suis honnête, je peux pas vous dire oui, je veux y aller, absolument.
Non, mais de voir ce qu'il s'agit, ouais.
Je serais curieux de découvrir, mais si on me dit vous allez découvrir pendant 6 heures, je suis un peu réticent quand même.
Moi, je veux bien donner des clés à Bernard Campan, parce qu'il y a une manière... Parce que pourquoi est-ce que moi, ça m'a séduit, par exemple? Parce que c'est vrai, quand on l'explique, c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Et encore, on n'est pas rentré dans le détail.
Voilà.
Donc, c'est vraiment dingue.
Vous savez, c'était très simple. Moi, ils m'ont invité. C'est Gérard Depardieu qui me passe un coup de fil.
Gérard Depardieu qui fait...
Qui double
une des voix. Parce qu'il y a plein de films doublés par Isabelle Huppert. 13
films.
Anna Chigoula a refusé.
Non, Anna Chigoula a accepté
finalement, après ce qu'elle a vu. Mais non.
Isabelle Huppert, voilà. Et ma pomme, d'ailleurs, parce que j'ai fait également un doublage de film.
Fanny Ardant.
Et donc, je vais au Théâtre du Châtelet, qui est sous la responsabilité de la ville, puisqu'elle est le théâtre financé par la ville. Et je découvre une installation absolument démente de squatteurs russes qui ont complètement redécoré les bureaux du Théâtre du Châtelet, qui est en travaux. Hein. Les deux théâtres sont en travaux. Redécoré, et là, on est dans l'ambiance soviétique que moi, j'avais connue. À l'époque, Saint-Laurent-Berger, quand nous allions à Leningrad, chez les Catanian, Mayakovsky, Librik. C'était comme ça, la Russie de l'époque, années 70-80.
Il y avait des sex-shops.
Alors, il y avait du sexe, en tout cas.
Oui, parce que des sex-shops, je ne pense pas.
Non, mais attends, le sex-shop, c'est anecdotique.
Oui, mais il y est quand même.
Oui, mais c'est une chose.
Oui.
Il y a les films, il y a la musique, ouais. Il y a ce chef d'orchestre absolument inouï.
Dément, ouais.
qui a joué Tchaïkovski, franco-grec, russo-grec. Et donc là, vous passez d'un bureau à l'autre, vous voyez des gens qui sont soit faux, soit réels. Vous passez, c'est très onirique. Vous êtes comme dans un rêve d'une autre époque. Et moi, j'ai eu l'impression de voyager dans le temps. Et ça m'a fait penser aux Nuits Blanches, les vraies.
Eh bien, on va revenir sur ce projet dans quelques instants pour que Bernard Campan comprenne encore un peu plus ce qui se joue actuellement à Paris. Oui, parce que pour vous, c'est quand même un peu plus calme, vous, au Théâtre de la Renaissance, la dégustation, c'est une comédie romantique, mais pas que, la rencontre de deux célibataires, mais aussi l'arrivée d'un jeune délinquant en semi-liberté qui va faire un stage chez vous, qui est caviste, avant de repartir chaque soir dormir en prison. Je regardais votre parcours, beaucoup de cinéma, de la scène, il y en a eu plein avec Les Inconnus, mais du théâtre, véritablement très très peu. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pour revenir depuis quelques années comme ça au théâtre?
Très peu de théâtre, mais pas beaucoup de cinéma. Enfin, je pense
pas. Ah, du cinéma quand même. Ça commence
oui,
à bien.
Oui, mais bon, je pas. Non. Enfin, voilà. Mais très peu de théâtre, c'est sûr, en tout cas. Mm. Oui, puisque c'est la deuxième pièce que je joue là depuis 20 ou 25 ans. Je sais plus. J'ai pas calculé.
Oui, oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est ce que j'ai regardé.
Ben pourquoi je sais pas.
On vous propose des choses ou pas?
Oui, oui, on m'a proposé.
Ça veut dire que vous avez passé votre temps à refuser?
J'ai beaucoup refusé, oui. J'ai beaucoup refusé, d'ailleurs, pour un bien ou pour un mal, je sais pas, mais j'ai beaucoup refusé. Puis, en fait, j'avais eu le déclic avec le syndrome de l'Écossais il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, parce que en lisant et en riant à ce que je lisais, à la pièce elle-même, je me suis dit, mais en fait, voilà, j'ai envie de faire rire à nouveau, si on peut dire, après l'expérience des Inconnus qui s'était
arrêtée en 95. Mais pas rire de la même façon du tout.
Alors, le syndrome, c'était vraiment une comédie pure. Et là, on est sur une comédie, vous avez dit romantique. Bon, je sais pas si c'est une appellation
Ça allait un petit peu, c'est-à-dire deux caractères opposés vont pouvoir se retrouver.
Voilà,
mais c'est pas
ça.
Que, parce qu'il y a aussi une dimension de comédie sociale.
C'est social, humaine,
drame personnel.
Un drame.
Comédie dramatique, on dirait, si c'était au cinéma.
Oui, au cinéma, on dirait comédie dramatique. Mais c'est vrai que ça commence sur le ton, on pourrait dire, de la comédie. Et ça, petit à petit, ça vire vers l'émotion, vers le drame. Et bon, il y a un happy end qui fait qu'on sort de là, je pense, c'est assez heureux, assez léger, positif. C'est un peu un feel-good movie au théâtre. Voilà, donc c'est assez nouveau aussi, parce que du coup, avec Isabelle Carré et puis nos trois autres
complices
sur scène, on passe vraiment, on jongle entre ces deux registres, et comment arriver à être drôle, mais aussi à ne pas trahir quelque chose, parce que quand on vire vers le drame, faut pas que ce soit bon, vous a fait rire maintenant, voilà, vous voyez, donc c'est ténu, c'est sur un fil, et j'aime beaucoup ça, et c'est vrai que jusque dans le drame, les points d'humour sont toujours là, mais le rire est plus le même, parce que c'est plus un rire libérateur. Et au début, on est plus sur le rythme de la comédie. C'est assez... là aussi, c'est difficile à expliquer.
Eh ben alors, on va expliquer dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose de retrouver Cléa Vincent. Oui, elle est de retour avec un nouvel album, Nuit sans sommeil, dans le NRV.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Nuit sans sommeil dans le NRV avec Cléa Vincent, la programmation Insomnie de Jean-Baptiste Libert.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Petite fleur de Ciné Béchette pour ouvrir avec vous Bernard Campan, c'est la musique sur laquelle tout peut arriver et pourquoi pas l'amour dans cette pièce d'Yvan Calberac, la dégustation au théâtre de la Renaissance à Paris. Yvan Calberac que vous connaissez déjà?
Oui, oui. Petite parenthèse, quelle version de Sidney Bechet? C'est pas celle qu'on a sur scène.
Non, non, mais je sais que c'est pas celle que vous avez sur scène.
Mais c'est aussi Sidney Bechet.
Ouais.
Ah, d'accord.
Je sais pas. Une autre version. Donc, j'ai pas retrouvé la version que vous avez sur scène.
Ah, mais c'est agréable d'entendre les nuances, les petites différences. J'avais tourné avec lui une semaine sur deux, un film sur justement la séparation et la garde alternée. Et voilà, où il y avait déjà ce qu'il aime faire et ce qu'il sait aussi très bien faire, c'est-à-dire mêler l'humour, la tendresse, voilà.
Et de faire de la comédie, mais pas simplement la comédie du gag pour le gag. Ouais. Vous l'avez beaucoup vu au cinéma ou au théâtre? Au théâtre, non, ça m'étonnerait, Christophe Gérard, parce que il n'y a eu que deux pièces.
Oui, mais je suis pas si jeune, donc j'ai le temps de... En tout cas, j'ai ce souvenir en voyant Bernard Campan entrer dans le studio tout à l'heure, évidemment, j'avais ce souvenir des belles choses. Ouais. Avec d'ailleurs Isabelle Carré, dans ce film merveilleux de Sabou Bretman. Je me suis dit, mais il y a dû y avoir un paquet de filles et de garçons qui sont tombés amoureux de lui quand ils avaient vu ce film. Le beau Bernard Campan et...
Le beau homme, quand elle perle un peu le langage, elle m'appelle mon beau homme.
Mon beau homme avec le... Ouais, c'est un film magnifique et... Un film d'aujourd'hui, je trouve.
Oui, et puis qui a été vraiment un tournant dans votre parcours.
Un point de départ ou un tournant, un peu les deux. Oui.
Un point de départ, non, c'est pas la même chose,
j'avais tourné avec Anne Fontaine un second rôle dans un film qui s'appelait Augustin, roi du Kung-Fu, qui n'a pas marché. Mais Anne Fontaine m'avait déjà beaucoup appris sur le fait de me détendre et de jouer. Alors Anne Fontaine était très pointilleuse sur le fait tu as levé le sourcil. Ah bon, alors ah oui, non, non ça, alors sois plus, alors j'essayais de et tu écartes les yeux. Ah bon. Alors j'essayais de c'était un peu technique, mais c'est vrai qu'en arrivant entre les mains de Sabou Bretman, j'avais un petit peu cette notion qu'au cinéma, fallait se détendre et enfin en tout cas que je pouvais dans ce registre-là être simple, sobre, ça m'a beaucoup appris quoi.
C'est séduisant.
Ouais. Et du coup, c'est le beau homme.
Le beau homme qui est apparu.
Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours. C'est séduisant, c'est pas le mot, mais sur, je sais pas comment dire, ce personnage en qui on a confiance, qu'on aime, quoi. Enfin, voilà, qui est rassurant.
Aimant.
Aimant, ouais.
Bah, c'est à peu près le même genre de personnage que vous jouez ici. Vous êtes Jacques, un type bourru, mais bon fond.
Ah oui, plutôt bourru.
Ouais, mais bon fond,
mais
on voit.
Voilà, faut bon gratter fond. Sous la surface.
Caviste, célibataire avec au poignet.
Alcoolique un peu quand même.
Un célibataire avec au poignet une montre qui donne l'heure aux antipodes. En Nouvelle-Calédonie, c'est ça?
Oui.
Bref, un type qui ne va pas très bien, qui picole un peu, qui a manifestement vécu un drame personnel. Et c'est là qu'une jeune femme, enfin pas si jeune que ça non plus, apparaît. Elle entre dans le commerce, elle s'appelle Hortense. Et Isabelle Carré, un peu coincée, cato, elle ne parle que de son curé et de ses bonnes œuvres. Coincée, mais pas mal du tout, il y a du potentiel, comme dit votre personnage. Elle est célibataire, elle picole un peu. Alors, est-ce que ces deux-là pourraient trouver quelque affinité? Je pense que oui, mais c'est pas gagné. D'autant qu'un autre personnage débarque, tire le rideau du commerce. Un jeune délinquant vient de braquer la bijouterie à côté. Ça passe ou ça casse. Bernard Campan, donc, de retour sur scène, dans une comédie qui ne joue pas forcément que sur le gag. Mais dès le départ, la comédie, c'était vraiment votre registre? Quand vous avez vraiment commencé?
Alors oui, la question que je me pose, c'est à quel moment j'ai commencé. Donc moi, j'ai arrivé à Paris quand j'avais 19 ans, j'ai fait les cours Simon. Moi, mon idéal, c'était d'être Gérard Philippe au théâtre, quoi. Voilà, j'ai une admiration pour Gérard Philippe, je trouvais beau et voilà. Et puis le rire est arrivé progressivement en écrivant un spectacle de café-théâtre avec mon camarade du cours Simon. Après le théâtre de Bouvard, vous voyez. Ouais. Puis c'est la vie qui vous mène, hein, qui vous emmène où elle veut, en fait, finalement.
Mais au cours Simon, vous distribuez dans quel type de rôle?
C'était entre les jeunes premiers, la comédie aussi. J'avais fait un Goldoni. J'avais passé le premier tour du conservatoire que j'avais eu grâce à un Goldoni à Harlequin. Le Goldoni un peu comme Media dell'Arte. J'étais assez physique quand j'étais jeune. Donc voilà.
Ça s'est arrêté? Hein? Vous dites, j'étais assez physique quand j'étais jeune.
On faisait un sketch au théâtre de Bouvard qu'on avait repris, qui s'appelait Les Cascadeurs Français, qui était donc pitoyable, on va dire. Et moi, c'était des mini-sketchs à la suite, des sketchs à flash, qu'on appelait ça. Et moi, je faisais un cascadeur qui en faisait trop. Donc, on me donnait un coup de poing et je rebondissais dans tous les coins de la scène. J'en faisais des tonnes. Mais je me laissais tomber sur les planches. On a fait je sais pas combien de représentations à droite à gauche. Je sais pas comment je faisais. J'étais très physique. Là aujourd'hui, je peux plus. J'ai mal partout. Ceci explique cela.
Au départ, quel est le théâtre que vous vouliez défendre quand vous avez commencé, même si le mot de commencer manifestement vous pose problème à Narcampan. Vous arrivez à Paris, c'était quoi le théâtre que vous vouliez défendre?
C'est ça, Gérard Philippe, les classiques, le Grand Théâtre, le TNP, et alors que je connaissais pas mes classiques, je les connais pas plus aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était ça, le théâtre avec un grand T.
Vous avez été déçu de basculer dans la comédie?
Je me suis posé la question.
Ça a duré 11 ans quand même,
que les Inconnus. Je me dis où je vais, qu'est-ce que je fais? Quand on se retrouvait avec les Inconnus, qui n'étaient pas encore les Inconnus, à faire des boîtes de nuit à 2h du matin, à retraverser la piste de danse après avoir fait quelques sketchs misérables devant une assemblée à moitié bourrée, et que je traversais avec les valises, je me souviens d'une fois, des valises dans lesquelles on fourrait nos chemises bourrées de sueur, les accessoires pour faire les gags, et une valise s'ouvre et se déverse sur la piste de danse, et je suis à quatre pattes en train de tout remettre, je dis mais... C'est quoi mon métier, ouais. Où je vais. Et mais bon, en même temps, ça a été très très nourrissant. On a appris plein de choses. C'était la vie. C'est la vie qui forme un artiste. Hein. Donc la vie, elle a œuvré là, dans ces moments-là. Et puis après, voilà, les Inconnus. Et puis ce fameux tournant avec Zabou.
Qui se vérifie aujourd'hui avec ce que vous choisissez pour revenir au théâtre. Mmh. Dans la pièce, votre personnage souffre d'un traumatisme, un passé douloureux, oui. La perte d'un enfant, la disparition. Oui. La mort, c'est quelque chose qui a pu vous hanter vous-même. Je vous pose cette question parce que je sais que depuis quelques années, et d'ailleurs j'aimerais savoir à quel moment ça est née cette amitié, vous êtes très ami avec le philosophe Alexandre Jolien.
C'est vrai que c'est un des... Je dirais que c'est ce qui nous a rapprochés, c'est le thème de la mort dans nos discussions avec Alexandre au début, quand on s'est appelé, on s'est téléphoné, enfin c'est moi qui l'ai appelé, et on parle beaucoup de la mort. Quand j'étais enfant, ça me fascinait. Je me souviens, je m'allongeais sur mon lit, je mettais la mort d'Az, là, de Grieg, un truc triste, et je pleurais, je faisais le gisant comme ça en mettant 4 bougies à chaque angle. J'avais envie de me... C'est quoi la mort? Ça va être quoi ma propre mort? Ça m'a fasciné. Et puis ça m'a angoissé, ce qui m'a déclenché une recherche personnelle, spirituelle.
Spirituelle, hein.
Et en fait, je me pacifie de plus en plus avec l'idée de la mort, puisque ça ne peut être qu'une idée. Et ça m'apaise. Oui, mais c'est donc... Memento Mori, c'est tout, beaucoup à travers les Grecs, moi, la philosophie m'a aidé pour apprivoiser cette idée de la mort.
Quoi. La rencontre avec Alexandre Jolien, ça a été un moment dans votre parcours de vie personnelle ou même professionnelle, autour d'un film, autour d'un rôle, un scénario?
Les deux. Ah ouais. Les deux, parce que j'écrivais un scénario quand j'ai rencontré Alexandre. Moi, je l'ai vu dans une émission télé chez Tadi, sur FR3. Et je suis avec ma femme et là, je suis scotché par cet homme. Je suis touché au plus profond de moi. Je pleure. En fait, il racontait cette histoire du disciple qui rencontre le philosophe, ou je sais pas si c'est Diogène ou quelqu'un d'autre, qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être philosophe. Et Diogène dit tu prends un hareng, tu l'accroches derrière toi et tu traverses Athènes. Et Alexandre explique, selon moi, ça veut dire si tu veux être philosophe, soumets-toi au regard de l'autre. Et d'accord, hein, et il dit, moi l'avantage c'est que le hareng je l'ai toujours avec moi. Et alors là, j'y suis resté, donc j'ai dit, il faut que je téléphone à ce type-là, on s'est appelé, on a une longue relation téléphonique, on s'est appelé tous les jours, pendant des années, pendant 5 ans, ah ouais. Quasiment, et j'écrivais un scénario, et c'est lui qui m'a fait comprendre, mais en me disant, est-ce que ce scénario te correspond? J'ai fini par l'abandonner, j'ai redémarré sur un autre scénario qui est devenu le film que j'ai fait en 2007, et grâce à Alexandre qui m'a dit, écoute, je te lâcherai pas la main, je t'accompagnerai jusqu'à la fin de l'écriture.
Christophe Gérard, qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous regardez en train d'écouter vraiment.
Oui, parce que Bernard Campan. C'est beau et ça fait du bien d'entendre Bernard Campan parler de la mort. Moi, j'ai moi-même un rapport assez passionnel à la mort, à la fois d'impatience de la rencontrer et en même temps la distance à telle enseigne que j'ai à Montparnasse, donc ma tombe, avec la date de décès.
Vous avez inscrit déjà votre date de décès?
Depuis 10 ans déjà, 2039, donc on a un peu de temps, à la suite d'un rêve prémonitoire. Et cette tombe qui est bien placée, hein, elle est pas loin de Gainsbourg.
On
et
peut vous faire confiance, que ça
te gérera. Oh non, parce que là j'étais un simple citoyen qui avait acheté son caveau à l'époque, donc pas d'influence possible. Et les histoires que les gardiens me racontent de celles qui passent devant la tombe et soit qui ne comprennent pas, soit qui s'interrogent, ou le courrier que je reçois. Est-ce bien vous? Ou bien, mais pourquoi vous avez programmé votre suicide? Voilà, moi, je trouve que d'entendre voilà, un comédien aussi sensible et intelligent que Campan parler de la mort et même de l'émotion et qu'il en pleure, ben, ça fait beaucoup de bien, voilà, un soir sur France Inter d'entendre ça.
Merci. Mais c'est, j'ai envie plutôt de poser des questions. Plein de questions. Déjà, c'est possible donc de précommander ça tombe.
Alors, avec le... ça vous intéresse.
Mais oui, parce que en plus, moi, j'ai des places.
J'ai pas choisi la date.
Mais comme maintenant, on peut plus avoir de places dans les cimetières qui sont vraiment pleins. Est-ce qu'éventuellement, je pourrais avoir une place chez toi ou etc. Donc, ça crée des relations assez joyeuses quoi, autour de la mort et quelque chose qui est un peu quand même. Voilà, angoissant. Et tout simplement, oui, on a les services de la ville avaient dit, mais non, on peut pas mettre sa date parce qu'en effet, c'est illégal. J'ai dit, très bien, donnez-moi la loi, texte de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Il n'y a pas d'attentat à la pudeur. Et donc, les frères Cahen, donc qui gèrent mon caveau, ont donc pu inscrire comme je le souhaitais.
Est-ce voilà. qu'il y a eu des émules déjà? Non.
Bah, pour l'instant, pas trop, je crois, mais il y a des textes, il y a des gens qui s'y intéressent, voilà, comme d'un objet singulier. Je trouve bien que la mort ou la date de décès de quelqu'un soit un objet de conversation, éventuellement.
Alors, dernière question, si votre date de mort ne correspond pas à la date de mort,
on changera.
D'accord, très bien. D'accord, donc il n'y a pas un suicide programmé, alors, à ce moment-là.
Ah non, pas du tout.
Non, parce que vous avez dit le terme suicide il y a quelques instants.
Oui, parce qu'on me l'a dit. Puis moi, j'ai une mère qui s'est suicidée, donc. Certains peuvent se dire, oulala, c'est une chose dans la famille. Non, pas du tout. Non, je suis plutôt un rapport joyeux à... Enfin, j'essaie de faire en sorte que ça soit joyeux, quoi.
Rendez-vous dans 20 ans, alors, Christophe Gérard. Rendez-vous dans quelques instants. Merci, Bernard Campan. Vous restez avec nous. La dégustation au Théâtre de la Renaissance à Paris, avec notamment Isabelle Carré, qui a un bon potentiel, c'est vrai. Tout de suite, des pots de fleurs sur la tête, des combinaisons jaune fluo et un rock totalement déviant. Dévo, produit par Brian Eno sur France Inter.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard, sur France Inter.
rendez-vous.
En 2009, plus de 400 personnes ont abandonné leur quotidien afin de s'immerger dans l'Union soviétique de 1938. Ils ont voyagé à travers trois décennies, achevant leur périple en 1968, transformés à jamais. Plus de 700 heures de leur réaction réelle et spontanée face à ces circonstances extraordinaires ont été filmées. L'expérience continue.
Ça, c'est le teaser de Dao, l'expérience qui continue 24 heures sur 24 dans deux théâtres à Paris, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre de la Ville qui sont en ce moment en travaux et au Centre Pompidou. Trois lieux pour une exposition monstre, Dao, à la fois des concerts, des films, la visite d'appartements soviétiques, des rencontres avec des chamans, avec des popes, avec des infiltrés. Bref, des choses à identifier pour Bernard Campan qui se demande encore mais qu'est-ce que c'est que Dao? D'abord, la première chose, Christophe Girard, est-ce que vous êtes vraiment... Allez, est-ce que vous avez vraiment fait l'expérience après avoir rempli un visa? Parce que moi, j'ai tenté. Je devais y aller ce matin à 9h. J'avais rendez-vous. Mais impossible hier de me connecter finalement. C'est-à-dire, la photo ne passait pas. Je n'ai pas pu rentrer le questionnaire parce qu'on doit remplir. Il n'y a pas de billet. Bernard Campan, il y a des visas. Bah, tiens, je vois qu'il a son, il a son propre visa. On doit remplir un questionnaire avec des données très personnelles. Et en fonction de cela, on vous donne des, une sorte de guide pour visiter l'exposition qui ne sera pas la même selon que vous êtes, je sais pas, fou de pornographie, que la violence ne vous trouble pas ou que vous avez eu des parents délinquants, j'imagine. Pour vous, ça s'est passé comment, Christophe Zera?
C'est ça les questions, avez-vous eu des parents délinquants?
Non, mais non, pas du tout.
Bah, j'espère, oui. C'est un peu délinquant, c'est ça qu'elle en
Christophe Gérard, vous avez fait l'expérience ou pas encore?
Bah oui, c'est-à-dire que je suis allé dans la cabine, le kiosque qui est sur la place du Châtelet, donc m'inscrire. Là, on m'a photographié, posé des questions, j'ai rempli un questionnaire.
Quelle est la question qui vous a le plus troublé?
Aucune.
D'accord.
Parce que comme c'est une performance, comme l'on dit, moi j'aime bien me laisser porter et j'ai pas envie de toujours tout contrôler, vous voyez. Et là, c'est l'occasion enfin de lâcher prise et de se laisser embarquer par, comme je vous dis, quand je suis allé rendre visite au Théâtre du Châtelet fin septembre, c'était juste dingue de voir ces gens qui squattaient le Théâtre du Châtelet. Sous l'époque soviétique. Donc vraiment, on a envie de se laisser porter.
Et dernièrement, alors, qu'est-ce que vous avez fait?
Ben, j'ai passé une nuit entière samedi. Ouais. C'est là où il y avait Brian Eno, où il y avait ce chef d'orchestre incroyable, Theodor Kourentzis, qui est... Bon, il est très beau, il est très grand, il est très étrange. Il dirige sublimement la musique. Et tous ces gens sont incroyables. Par exemple, il y a ce savant qui est présent, qui a un physique très étrange, mais qui est doublé de son propre mannequin. Donc, dans une pièce un peu noire, il était assis sur un lit, et je pensais que c'était le mannequin. Donc, j'ai fait le malin, je me suis assis à côté de lui, j'ai commencé à le toucher. Et c'était le vrai. Donc, vous passez du faux au vrai, donc ça fait du bien, je trouve, que dans l'ambiance actuelle. Voilà, et puis de savoir que Berlin n'a pas pris, que Londres aimerait avoir, que Berlin, maintenant, aimerait à nouveau avoir, et que Paris, ça soit la capitale, capable d'accueillir le projet le plus dingue, ben je trouve que ça ressemble à la ville de la démesure.
Donc alors, un projet véritablement dingue, parce que bien sûr, c'est sujet à polémique. Il suffit de lire l'hystérie qu'il y a dans la presse pour dénoncer ce que l'on peut voir ou ne pas voir. Parce qu'il y a des choses très drôles. Sur Internet, par exemple, il y a quelqu'un qui dit « C'est exactement comme en Russie, on fait la queue pendant des heures et il n'y a rien à voir. » Et pour autant, quand on lit dans la presse qu'il y a à voir, notamment, on parle d'un film très précis, une femme qui s'appelle Natacha, qui aurait été torturée par le KGB avec un viol vaginal, véritablement dans le film. Anna Chigoula, c'est écrit dans Le Monde, qui devait doubler le film, va refuser, c'était dans Le Monde, en disant que c'est la femme qui souffre, et que ce n'est pas l'actrice, qu'elle ne peut pas cautionner ça. Et toujours dans Le Monde, on ajoute, le réalisateur lui aurait répondu, on s'en fout, c'est une prostituée, je l'ai trouvée dans un bordel sadomasochiste. Est-ce que ça fait partie de la paranoïa ambiante, toutes ces réactions? Martine Danglejean, vous alors, qui êtes à l'origine aussi de ce projet.
Alors, il faut savoir que l'expression qui a été attribuée à Ilia n'était pas tout à fait de lui, donc d'une chose.
Mais Ilia, c'est le réalisateur.
Ilia, c'est le réalisateur. Alors, faut savoir, ce sont des films qui ont été créés à partir d'une expérience assez étrange, faut le dire. C'est-à-dire que des centaines de personnes ont été invitées à participer à un voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'en 3 ans, ils ont revécu 30 ans de l'Union soviétique.
Pendant 3 ans, ils ont été, on va dire, enfermés dans un bâtiment qui a été reconstruit par le réalisateur en Ukraine.
Exactement. Donc, ils ont revécu 30 ans de l'Union soviétique dans ces 3 ans. Mais il faut savoir d'une part qu'ils étaient invités, qu'ils n'étaient pas incarcérés, qu'ils étaient invités justement à participer à une expérience humaine très particulière. Et donc, ce qu'on voit dans les films...
Ils ont été filmés pendant ces trois ans.
Donc, ce ne sont pas des acteurs.
C'est des lieux dans lesquels ils vivaient pour dormir, pour manger, oui. Et puis après, ils sortaient.
C'était un institut de physique quantique.
C'était un peu le loft. C'était enfermé, vraiment.
Ils étaient dans un institut de physique quantique où ils pouvaient sortir. Enfin, disons qu'ils pouvaient en sortir.
Mais
ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils étaient dedans, il y avait des règles. D'accord. Et c'était des règles, disons, des règles vestimentaires, des règles de langage, des règles exactement qui étaient décidées par l'année dans laquelle ils étaient.
Enfin, par exemple, ils ne pouvaient pas prononcer des mots qui n'appartenaient pas à l'année dans laquelle ils étaient pendant cette... Ouais, vous voyez le genre.
Sinon, punition.
Oui, on ne peut pas parler d'un iPhone en 1940.
Voilà. D'accord. Où on pouvait pas parler de la mort de Staline si ça c'était pas si on était dans l'année 49. Bon, alors faut savoir c'était pas des acteurs. Il faut savoir que les gens qui étaient à l'intérieur, que ça soit un chauffeur, un scientifique, une femme de chambre, etc., fait à l'intérieur de l'institut ce qu'elle fait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il a reconstitué une société, un microcosme qui aurait pu exister. Et donc les gens qui gardent leur nom sont eux-mêmes, mais déplacés dans le temps. C'est-à-dire qu'ils sont habillés en soviétique, c'est-à-dire qu'ils parlent ce langage un petit peu artificiel d'une époque passée. Et donc, ils sont un petit peu déplacés par rapport à eux-mêmes. Et c'est cette espèce de décalage par rapport à soi-même qui est l'opportunité, la chance d'essayer de voir qui on peut être quand on n'est pas dans l'habitude de soi-même. C'est-à-dire, c'est une aventure dans la nature humaine. Et ce qu'on voit dans les films, c'est une chose qui est en fait assez merveilleuse. Et j'étais assez touchée par ce que vous avez dit au sujet de la vie et de la mort, parce qu'on est vraiment dans l'émotion humaine de très très près. Et on voit des gens agir et être humains, que ça soit beau ou laid, mais dans une vérité qu'on ne voit jamais au cinéma.
Mais est-ce qu'on n'est pas proche du snuff movies en fait ?
Non, parce que dans les snuff movies, j'ai pas beaucoup, vu beaucoup de
moi
snuff
non plus,
movies,
mais ce que l'on entend par snuff movies, c'est-à-dire...
Mais par exemple, dans l'exemple que vous donnez de Natacha, alors c'est un film, si on veut, qui est un peu un triptyque. Au début, il y a une scène où elle est avec une jeune femme, donc elle, c'est une femme qui travaille dans le café. Les deux travaillent dans le café. Natacha, qui est certainement jalouse de la plus jeune, la fait souffrir, la torture un petit peu en la faisant boire, en lui faisant dire des choses révéler des choses qu'elle ne veut peut-être pas révéler. Ensuite, Natacha passe dans une scène de séduction ou une scène extrêmement sexuelle où elle a l'air de se bien se passer, où elle a l'air d'être très heureuse. Et ensuite, elle est interviewée par le chef de la KGB pour avoir justement couché avec un invité de l'institut. Et dans les trois exemples, elle est absolument agente de ce qu'elle fait, c'est-à-dire c'est elle qui décide. Et donc, elle a décidé de torturer, si on veut, cette jeune femme et de picoler comme une folle. Elle a décidé aussi de se jeter dans le lit avec ce scientifique étranger invité. Qui était invité, et elle s'est grisée. Et dans la troisième scène, il se passe une chose qui est désagréable, qui est extrêmement certainement effroyable, mais elle a à tout moment le choix de l'arrêter. Et donc, elle est en train de faire une expérience, disons, extrême de ce que c'est que d'être dans l'émotion humaine.
Et on n'est pas dans la fiction, Bernard.
On n'est pas dans la fiction.
Vous avez bien compris.
À un moment, j'ai hésité.
Et on n'est absolument pas dans la fiction. Et donc, ce qui est très, très émouvant, justement, dans ces films, c'est cette espèce de matière de ce qu'est la relation humaine, que ça soit des silences, que ça soit des violences, que ça soit de l'amour. C'est vraiment très... c'est très particulier, c'est pour ça qu'il faut venir en faire l'expérience.
Alors, bien sûr, le projet pose problème, notamment à la presse, qui se demande comment on a pu financer ça. De la part, d'abord, il y a... Non, Christophe Girard, j'ai regardé un petit peu la presse, en effet. On se demande, du côté de la mairie de Paris, combien ça a coûté la mairie de Paris. Du côté du Théâtre du Châtelet, combien ça a coûté au Théâtre du Châtelet. Et surtout, qui a pu financer, dès le départ, un projet aussi monstre où il a fallu quand même reconstruire un bâtiment en Ukraine, pendant 3 ans mettre des centaines de figurants, ici à Paris avoir 200 ou 300 pareils figurants et puis des gens qui s'occupent matériellement de cette installation. Donc d'abord, première question, qui est le financeur de cette qui pose déjà problème de cette installation?
Alors, faut savoir pour commencer, quand il y avait sa première intention était de créer un
film. C'était un biopic sur un physicien.
Un biopic tout à fait conventionnel si on veut, et donc c'était financé par du cofinancement de cinéma assez connu. Quand la chose s'est transformée dans cette expérience absolument unique et étrange, évidemment, le financement de ce projet devait se faire de façon différente, puisque c'était une chose absolument expérimentale qui pourrait financer cette chose. Et il y a eu une chance immense de rencontrer un monsieur qui s'appelle Sergei Adoniev et qui est un entrepreneur russe extrêmement cultivé, extrêmement fin, très curieux intellectuellement, artistiquement, et qui a commencé à financer ce qu'on appelle l'institut, et donc la création de cet univers en Ukraine. Donc on est en 2006-2007. Et c'est lui qui suit ce projet depuis le début, c'est-à-dire la création de l'institut, c'est-à-dire le tournage de l'institut, la post-production à Londres qui a duré 5 ans, la création de l'événement à Paris. Tout ça se fait à travers une fondation anglaise qui est financée par ce monsieur et qui est une fondation qui s'appelle la Fenomen Trust et qui est bien sûr tout à fait en ordre d'un point de vue financier, puisque ce sont des choses qui inquiètent beaucoup de personnes, que ça soit à Paris ou à Londres. Alors l'argent russe pose des problèmes.
Ça vous a inquiété, voilà. Christophe Girard? Combien ça coûte à la mairie de Paris?
0 centime.
Combien ça coûte au Théâtre du Châtelet?
Alors, le Théâtre du Châtelet reçoit une subvention annuelle d'environ 15 millions d'euros pour toutes ses productions, ce qui n'est pas un grand niveau d'ailleurs de subvention comparé à des opéras ou des grandes scènes nationales. Et le Châtelet, donc, a pris la directrice, Mme Ruth McKenzie, a fait le choix de cette invitation et a investi 150 000 euros. J'aimerais que l'on trouve une seule production avec un tel rayonnement, autant d'acteurs, de musiciens, d'équipes mobilisées, qui ne coûte que 150 000 euros pour être produit. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'argent en plus de la ville. Il y a un tout petit budget pris sur le budget du Théâtre du Châtelet. Et c'est en effet là où nous avions besoin d'être rassurés.
Sur l'argent russe.
Voilà. Alors, comme c'est de l'argent russe, évidemment, ça fait fonctionner évidemment tout le monde.
Là, on est allé... Ça fait partie du projet, bien sûr.
Bien sûr. Trump, oui. Les fake news, Poutine, l'argent russe, Gérard Depardieu, tout ça, mon Dieu. D'ailleurs, j'ai posé la question à Depardieu. Bah, écoutez, il y a des...
Si. Oui, bon, enfin...
Il y a des lois. En France, il y a un ministère des Finances. Il y a des contrôles, tout ça est contrôlé, donc que chacun fasse son travail. Moi, j'ai rencontré Adoniev, puisqu'on a déjeuné ensemble, j'ai posé des questions sur, en effet, ses engagements, l'argent, etc. Et il répond absolument sans difficulté. Et puis, c'est pas un ami de Monsieur Poutine. Moi, j'ai compris qu'il était quelqu'un qui soutenait aussi la diversité en Russie, il soutenait des actions contre l'antisémitisme et des actions en Israël. Voilà, il a une diversité d'engagement qui est plutôt rassurante. Vous savez, quand on tourne un film à Paris, des grosses productions américaines, Tom Cruise ou d'autres, on devrait peut-être poser les mêmes questions. Pourquoi? Simplement parce que cette fois, c'est russe. Tous les fantasmes sortent. C'est intéressant, hein?
Mais en même temps, ça fait partie aussi, bien sûr, de l'émotion paranoïaque du projet. En fait, cette expérience apparaît très nouvelle et elle l'est. Mais... vous avez déjà vécu une expérience un peu du même type, un spectacle.
Je n'ai pas encore été avec mon visa à me promener évidemment dans la Russie soviétique, je le regrette, j'ai hâte d'y aller. Néanmoins, je me souviens d'avoir vu dans mon jeune âge, à Strasbourg, grâce à André Engel, un spectacle extraordinaire dans lequel on prenait un car et on allait comme ça dans des lieux mystérieux au fin fond de Strasbourg, plusieurs lieux dans lesquels on rencontrait des dissidents soviétiques. Alors c'était le pendant inverse en quelque sorte, mais c'était très fort comme spectacle. Alors il n'y avait pas ce côté immersif du projet DAO, c'est-à-dire c'était des acteurs qui jouaient des dissidents et on était quand même dans ces décors et on faisait la démarche d'y aller, puisqu'au fond ce n'est pas un spectacle dont vous nous parlez, c'est une installation. On y va comme on va à la petite maison des horreurs où on va découvrir des choses mystérieuses. Enfin, moi ça me fait très envie en tout cas.
Mais j'imagine d'autant plus qu'on va parler de Trump, agent double russe, dans quelques instants.
Comme par hasard.
Alors, Campan, vous avez un peu plus compris l'idée du projet?
Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, je suis curieux, ça excite ma curiosité. Voilà. Et ce que je peut retenir, c'est qu'il s'agit en fait de faire une expérience. C'est-à-dire que déjà au départ, il y a une expérience qui est proposée, à laquelle on nous propose de participer. Donc c'est cette histoire d'expérience, tout ça, ça me...
Et c'est à quelques mètres, à quelques centaines de mètres du Théâtre de la Renaissance, du côté du Châtelet, Théâtre de la Ville et le Centre Pompidou, Dao jusqu'au...
17
février. Merci Martine Danglangeon, merci.
Et puis
Christophe
vous dire que demain, de midi à 19h, devant l'hôtel de ville, un grand écran est dressé pour un hommage à Michel Legrand avec une rétrospective de ses plus grands chefs-d'œuvre.
Mais alors ça va durer combien de temps? Il va y avoir quoi? Il va y avoir
les... De 11h à 19h?
De midi à 19h.
Ah, c'est super. Il y a beaucoup. Génial. Oui, voilà. Ah, c'est super. C'est très bien.
Exclusivité pour France Inter, Laurent Goumard.
On ira chanter les sœurs jumelles ensemble, Christophe Gérard.
Avec
vous
plaisir.
Restez avec nous tous les trois. Il va être question de musique tout de suite avec Marion Guilbault, les nouveautés nouvelles du jeudi.
Rendez-vous. Quel genre de musique joue-t-on en général chez vous?
Oh, on n'est pas difficile. Ici, on aime tous les genres. Country, western.
Vous êtes des policiers?
Non, madame. Des musiciens.
Marion, de quoi s'agit-il?
Eh ben, en attendant d'aller écouter Michel Legrand demain devant l'hôtel de ville, on va commencer avec un comeback, c'est celui de Pete Doherty. Alors pour ceux qui n'ont pas ouvert Rock and Folk depuis 1999, il y en a peut-être autour de cette table, je ne sais pas, Pete Doherty et son groupe The Libertines ont représenté le futur du rock au début du millénaire, avec sa gueule d'ange flétrie, son rock à guitare basique mais mélodique, ses addictions, ses bagarres, ses petites amies trendy, Kate Moss en l'occurrence. Et après un régime Sex, Drugs and Rock'n'Roll qui l'a amené au bord du gouffre, et ben tout ça a fini par imploser. Et après quelques années d'errance, de tentatives solo, et ben l'enfant terrible du rock british ne semble toujours pas vouloir raccrocher la guitare. La preuve, l'annonce ce matin d'un nouvel album pour le 26 avril. Un disque qu'il a enregistré lui sur les falaises d'Étretat l'été dernier en 4 jours. Donc c'est super rapide, c'est un peu le Speedy Gonzales de la 6 cordes. Un disque qu'il présente comme un portrait intime, dévastateur sur l'amour, la perte, la dépendance, le pouvoir de l'âme humaine pour transcender ses degrés les plus sombres. On dirait un programme des Alcooliques Anonymes. Ces 10 nouvelles chansons de Pete Doherty, eh ben, il les a déjà testées sur scène en compagnie d'un nouveau groupe, The Puta Madres. Et dans ce groupe, il y a aussi sa nouvelle chérie, Katia Davidas, qui joue des claviers. Alors, Pete Doherty a-t-il encore la flamme? Réponse avec ce premier titre. Doherty, Who's Been Having You Over. Cet extrait de son nouvel album attendu pour le 26 avril chez Différentes, ça pourrait figurer sur vos playlists, Bernard Campan?
Oui, c'est en 4 jours son album?
Oui, enregistré en 4 jours.
Ah oui, c'est comme 10
chansons.
Concert, quoi.
C'est oui,
très
c'est rapide.
Comme un...
oui.
D'accord. Alors moi, je connaissais pas, je ne savais pas ce qu'il a fait avant. J'ai entendu parler de lui, justement, ce qui défrayait la chronique avec ses histoires de drogue, mais je ne savais pas trop ce qu'il avait fait comme musique.
Ça vous plaît? Christophe Gérard,
apparemment, ou...
ouais, j'adore, et puis je l'ai croisé une fois, il était avec Eddie Slimane qui l'habillait, donc là c'est des personnages.
Un personnage, un vrai personnage, ouais. On va continuer avec un autre personnage, on lâche Étretat, le Kent, pour les Badlands aux États-Unis avec un drôle de lascar, Orville Peck, c'est un artiste énigmatique qui visiblement adore se déguiser en cow-boy. Il porte un masque sur la pochette de son premier album Pony et dans ses clips, aussi intrigant et arty qu'un film de David Lynch, Orville Peck fait donc une fixette sur l'Americana, mais plus précisément la country, mais une country un peu déviante, un peu gothique, traversée par des guitares réverbérées, on les entend là, et des tambours, une voix de crooner qui fait fondre et qui fait penser bien sûr à Chris Isaak, un vrai charmeur de serpent. Les chansons d'Orville Peck sont des berceuses, mais pour adultes. Il y raconte ses chagrins d'amour, ses anciens amants, son envie de vengeance et les contradictions intimes d'un cow-boy. Rester ou partir, pleurer ou pas, partir sans dire au revoir pour adoucir le départ, tout en souhaitant que quelqu'un lui dise « je ne peux pas rester » et prendre la décision à sa place. Vous voyez un peu le truc?
Oui, je vois le truc.
Voilà. Alors nous, on n'a pas du tout envie de le lâcher une fois qu'on a écouté ce titre-là.
Stark Hollow Town, Carson City Line. Spend Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry. You say go fast, I say hold on tight.
Ah oui, très Chris Isaac même. Ah ouais, j'adore.
C'est le crooner de la semaine, Orville Peck, Dead of Night. Son album Pony est à paraître sur le label Sub Pop le 22 mars et il sera en concert à Paris, c'est au Supersonic le 4 mars.
Vous, qu'est-ce que vous écoutez à titre personnel, Martine Danglangeant?
Oh là là, quelle question maintenant. Là, je suis plongée dans le monde soviétique depuis tellement longtemps que j'écoute beaucoup de musique russe, mais là, parce que j'ai le grand privilège de travailler avec des personnes extraordinaires comme Théodore Korensis, donc j'écoute énormément, beaucoup plus de musique classique qu'avant. Brian, bien sûr.
Brian Eno, qui était chez vous.
Qui était chez nous et qui a fait une improvisation extraordinaire avec Théo dans les espaces de DAO. J'écoute Arca, par exemple, qui est un jeune vénézuélien qui fait de la musique électronique et qui va aussi venir nous rendre visite. Et enfin, c'est assez large comme...
Je vois ça. Le dernier extrait, ou plutôt le dernier titre, Marion Guilbeault.
Oui, on se dit au revoir avec l'Amazon de la semaine. C'est une artiste suisse. Elle s'appelle Amina Kadeli, aka Flesh Love. Elle est née à Genève dans une famille de filles avec une maman d'origine berbère. Elle a étudié l'ethnologie, les sciences des religions. Et si je vous précise tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que ça nourrit vraiment très très fort sa musique. C'est une soul électronique, très portée sur la spiritualité, le soufisme et les sonorités orientales. Elle chante en français, en anglais, en espagnol, en arabe. Et avant de sortir de sa chrysalide pour écrire des odes vibrantes, baroques, au féminisme et à la sororité, on croise sur son disque Amy Claudel, la déesse Kali, la féministe noire queer Audre Lorde. Et Flesh Love, c'est vraiment une guerrière superbe, tatouée, qui a fait de ses blessures des chansons puissantes, avec une voix ensorcelante, chamanique. Son concert sera bien sûr l'un des temps forts du festival Les Femmes S'en Mêlent le 8 mars. Ce sera à Paris.
We are like a cake. We are so many different ingredients, and there will always be forces within our lives pressuring us to pluck one particular piece out of that cake and say, hey, see the jewel? That's me. Don't do it. It is dangerous. Sometimes it appears easier, but it is dangerous.
No matter how many times you will doubt, we'll be there for you.
But community must not mean a shedding of our differences, nor the pathetic pretense that these differences do not exist. So now get up, wake up, and now we are
we are sisters.
Sisters, un extrait du premier album de Flesh Love, Naga Part 1. C'est sorti vendredi dernier chez Musique Sauvage Piass. La programmation est signée Marion Guilbeault. Le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec le débat. Trump est-il un agent russe ?
Je pense que c'est la chose la plus insultante qu'on ne m'ait jamais demandé.
Alors le rendez-vous est pris. À tout de suite.